Chapitre 6e. Enfin, la réponse de Miss Bingley arriva et mit fin à toutes les incertitudes. Le premier paragraphe confirmait leur établissement à Londres pour tout l'hiver et finissait par les regrets qu'éprouvait son frère de n'avoir pas eu le temps de rendre ses devoirs à leurs amis de Hertfordshire avant de quitter le pays. Toute espérance était donc détruite, absolument détruite. Jane ne trouva dans cette lettre d'autre consolation que l'assurance de l'affection de celle qu'il écrivait. L'éloge de Miss Darcy en occupait la plus grande partie. On insistait beaucoup sur ses charmes. Caroline se vantait gaiement des progrès qu'elle faisait dans son amitié et osait prédire l'accomplissement prochain des souhaits qu'elle avait manifestés dans sa première lettre. Elle disait aussi que son frère était logé chez Mr. Darcy et elle racontait avec délices quelques projets de ce dernier pour de nouveaux ameublements. Élisabeth entendit la lecture de cette lettre avec une muette indignation. Son cœur était partagé entre le chagrin qu'elle ressentait pour sa sœur et la colère qu'elle éprouvait contre les autres. Elle ajoutait peu de foi à ce que Caroline disait de l'affection de son frère pour Miss Darcy, car elle ne doutait pas qu'il n'aimât Jane passionnément. Mais elle ne pouvait penser sans chagrin à cette facilité de caractère et à ce manque de résolution qui le rendait esclave de ses amis et lui faisait sacrifier son bonheur à leurs caprices et à leurs convenances. Si sa propre félicité avait été seule sacrifiée, il lui aurait été bien permis d'agir comme il le trouvait le plus convenable, pensait-elle. Mais il aurait dû voir que celle de Jane y était tout aussi intéressée. Ses réflexions étaient infructueuses. Et cependant elle ne pouvait penser à autre chose. Que l'amour de Bingley eût été diminué ou non par l'opposition de ses sœurs et de son ami, qu'il fût persuadé ou non de l'attachement que Jane avait pour lui, la situation de sa sœur était toujours la même. Son repos était peut-être troublé pour jamais. Jane n'eut pas d'abord le courage de parler de ses sentiments à Elizabeth. Cependant, un jour que Mrs. Bennet, après une discussion encore plus vive qu'à l'ordinaire, sur Netherfield et Mr. Bingley, sortit de la chambre laissant les deux sœurs en tête à tête, Jane ne put s'empêcher de s'écrier « Oh, pourquoi, ma chère mère, n'a-t-elle pas un peu plus d'empire sur elle-même? Elle n'a pas idée du mal qu'elle me fait par ses réflexions continuelles sur lui. Mais je ne murmure pas. Cela ne peut durer. Je l'oublierai. Et nous serons tout comme auparavant. » Elisabeth regardait sa sœur avec une sollicitude incrédule, mais elle ne répondait rien. « Vous en doutez, » dit Jane, en rougissant, « vous avez tort. Son souvenir peut rester gravé dans ma mémoire comme celui de l'homme le plus aimable que j'ai connu, mais voilà tout. Je n'ai rien à espérer, ni à craindre, et rien à lui reprocher. Grâce à Dieu, je n'ai pas ce chagrin. Ainsi, quelque temps encore, si je reprendrais toute ma force... » Peu après, elle ajouta d'une voix un peu plus assurée, « J'ai au moins cette consolation que tout ceci n'a été qu'une erreur d'imagination de ma part et qu'elle n'a fait de mal qu'à moi. »« Chère Jane, » s'écria Elizabeth, « votre douceur et votre générosité sont angéliques. Je ne sais que vous dire. Je sens que je ne vous ai jamais rendu justice, ni aimé comme vous le méritez. » Miss Bennet assurait qu'elle ne méritait pas cet éloge et l'attribuait entièrement à la tendre affection de sa sœur. Non, dit Elisabeth, cela n'est pas bien. Vous voulez croire tout le monde bon et estimable? Vous vous fâchez si je blâme quelqu'un, et vous ne me permettez pas de vous croire parfaite. Gardez-vous de penser que je veuille usurper votre privilège de bienveillance universelle. Il y a peu de gens que j'aime bien, et moins encore dont j'ai bonne opinion. Plus je vois le monde, et plus j'en suis mécontente. Chaque jour me confirme dans l'idée que j'ai de la légèreté du caractère humain et du peu de confiance que l'on doit accorder à ce qui a l'apparence du mérite ou du bon sens. J'en ai eu dernièrement deux exemples, l'un dont je ne vous parlerai pas, l'autre est le mariage de Charlotte qui est inexplicable sous tous les rapports. Ne vous abandonnez pas de telles idées, ma chère Lizzie, elles détruiront votre bonheur. Vous n'accordez rien à la différence de caractère et de position. Considérez les avantages de celle de Mr. Collins, le caractère ferme et prudent de Charlotte. Souvenez-vous que sa famille est nombreuse et qu'elle fait un excellent mariage quant à la fortune, et croyez, pour l'honneur de tous, qu'elle peut éprouver quelque chose qui ressemble à du penchant et à de l'estime pour notre cousin. Je voudrais pouvoir tout croire pour vous obliger, mais peu de gens sont doués comme vous d'une telle facilité. Au reste, si je pouvais supposer que Charlotte eût le moindre penchant pour lui, j'aurais encore plus mauvaise opinion de sa raison que je ne l'ai à présent de votre cœur. Ma chère Jane, Mr. Collins est un homme vain, plein d'ostentation, d'un esprit rétréci. Vous le connaissez tout comme moi, et vous devez sentir que la femme qu'il épouse ne peut en avoir une meilleure opinion. Vous ne la défendrez pas, quoi qu'elle soit Charlotte Lucas. Pour l'amour d'un seul individu, vous ne changerez pas la signification des mots de principe et d'intégrité. Vous n'entreprendrez pas de vous persuader ainsi qu'à moi qu'être intéressé soit avoir de la prudence et que ne pas prévoir le danger soit de la sécurité pour le bonheur.
Je crois que vos expressions sont trop fortes
en parlant de l'un et de l'autre, répliqua Jane, et j'espère que vous en serez convaincu en les voyant heureux ensemble. Mais c'est assez sur ce sujet. Vous parliez de deux exemples. Vous faisiez allusion à une autre personne. Je vous ai comprise. Je vous supplie, ma chère Lizzie, de ne pas me faire le chagrin de supposer que cette autre personne est blâmable et de dire qu'elle a baissé dans votre esprit. Il ne faut pas être si prompt à supposer des torts. On ne doit pas s'attendre qu'un jeune homme si vif soit toujours sur ses gardes et ait beaucoup de circonspection. Ce n'est bien souvent que notre propre vanité qui nous trompe. Les femmes s'imaginent toujours qu'on les aime. Et les hommes prennent soin de les entretenir dans cette idée. S'ils le font avec intention, ils ne peuvent être justifiés. Je suis bien éloigné d'attribuer la conduite de Mr. Bingley à quelque motif de fatuité. Mais sans avoir le projet de tromper, de rendre les autres malheureux, on peut avoir des torts, soit de l'étourderie, soit un manque de réflexion ou d'attention pour les sentiments des autres, soit enfin un défaut de résolution tout à fait condamnable.
Et vous l'accusez de l'un de ces trois défauts ?
Oui, mais si je poursuis, je vous déplairai en énonçant mon opinion sur des gens que vous aimez.
Vous persistez donc encore à penser qu'il se laisse entièrement conduire par ses sœurs ?
Oui, ainsi que par son ami.
Je ne puis le croire. Quel intérêt aurait-elle à le diriger ? Elles ne doivent désirer que son bonheur, et s'il m'aimait véritablement, aucune autre femme ne pourrait le lui procurer.
Votre première base est fausse. Elle souhaite beaucoup de choses encore, outre son bonheur. Elle souhaite qu'il augmente ses richesses, ses dignités. Elle souhaite qu'il épouse une femme qui réunisse tous les avantages de la fortune, de la naissance et qui flatte leur orgueil.
Il n'y a pas de doute qu'elle ne désire que son choix tombe sur Miss Darcy.
Mais ce peut être par des sentiments plus généreux que ceux que vous leur supposez.
Il y a plus longtemps qu'elles la connaissent que moi. Il n'est pas étonnant qu'elles l'aiment aussi. Mais quel que soit leur désir, il n'est point probable qu'elles s'opposent à ceux de leurs frères. Quelle sœur pourrait se le permettre?
À moins qu'il n'y ait eu de fortes objections à faire.
S'ils avaient cru qu'il me fût attaché, elles n'auraient pas essayé de nous séparer. Et s'il m'avait véritablement aimé, elle n'aurait pas réussi. En supposant qu'il eût de l'affection pour moi, vous faites agir tout le monde d'une manière condamnable, et vous me rendez malheureuse. Ne m'affligez donc pas davantage. Je n'éprouve aucun sentiment de honte de m'être trompé, ou du moins, ce n'est rien en comparaison de la douleur que je ressentirais si je me voyais forcé d'avoir mauvaise opinion de lui ou de ses sœurs. Laissez-moi considérer tout cela sous son meilleur point de vue, sous son véritable jour. »
Elizabeth ne pouvait lui refuser cette satisfaction, et dès ce moment, le nom de Mr. Bingley fut à peine prononcé entre elles.
Mrs. Bennet s'affligeait et s'étonnait de ce qu'il ne revenait pas. Quoiqu'il se passât rarement un jour, sans qu'Elizabeth lui dît tout ce qu'elle savait, et s'efforçât de lui persuader, ce qu'elle ne croyait pas elle-même, que les assiduités de Mr. Bingley n'avaient été que l'effet d'un sentiment passager, que l'absence avait fait évanouir, elle fondait encore toutes ses espérances sur le retour de Mr. Bingley l'été suivant. Mr. Bennet traitait la chose bien différemment.
« Ainsi, Lizzie, disait-il un jour, votre sœur a une passion malheureuse. Je l'en félicite. Il n'y a pas de mal qu'une jeune fille ait quelques chagrins de cœur avant de se marier. Cela l'occupe et lui donne un certain relief parmi ses compagnes. Quand sera-ce votre tour ?
Vous ne permettrez sûrement pas à Jane de vous laisser longtemps en arrière de ce côté-là. Ce serait bien le moment. Il y a assez d'officiers à Meryton maintenant pour tourner la tête à toutes les jeunes filles du pays. Je vous conseille de jeter votre dévolu sur Mr. Wickham. Il est fort agréable. Il saura très bien vous faire la cour et ensuite vous planter là fort honorablement.
Je vous remercie de vos conseils, monsieur. Mais peut-être ne serais-je pas si exigeante.
Un homme moins agréable me suffirait.
Nous ne devons pas nous attendre à être toutes si bien partagées que Jane.
C'est vrai, dit Mr. Bennet.
Enfin, c'est une tranquillité d'esprit pour moi, de savoir que vous avez une mère tendre, qui se prêtera volontiers à vous procurer toutes les facilités que vous pourrez désirer dans de semblables occasions.
Les visites de Mr. Wickham étaient absolument nécessaires pour dissiper la tristesse de la famille de Longbourn. Il y venait souvent, et on pouvait ajouter à toutes ses autres qualités celle d'inspirer une confiance générale. Ce qu'il avait raconté à Elizabeth de ses rapports avec Mr. Darcy, de ce qu'il en avait souffert, était maintenant connu de tout le monde et faisait le sujet de toutes les conversations. Chacun se vantait d'avoir eu assez de pénétration et de discernement pour avoir détesté Mr. Darcy avant même d'avoir rien su contre lui. Jane était la seule qui voulait supposer qu'il pouvait y avoir quelques circonstances atténuantes, inconnues à la société du Hertfordshire. Sa bonté douce et constante plaidait toujours pour l'indulgence et insistait sur la possibilité des mésentendus, tandis que tous les autres s'accordaient à condamner Mr. Darcy comme le plus méchant des hommes.